propose d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 15 et nous poursuivons au chapitre 2, pardon, le verset 15. Et nous terminons ce que nous avions commencé au sujet du nouveau fils, ce nouveau fils que Dieu a appelé hors d'Égypte. Et je lis Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Nous allons parler de ce nouveau fils, donc, qui remplace Israël, comme nous en avions déjà fait la mention il y a 2 semaines. Et à ce sujet, nous verrons 3 choses. Nous allons voir d'abord qu'il vient après Israël. Deuxième chose, nous verrons qu'il existait avant Israël. Et troisième et dernière chose, nous verrons qu'il est plus grand qu'Israël. Qui est-ce, évidemment? Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie d'Israël et le Sauveur envoyé par Dieu afin de nous délivrer de nos péchés et de leurs effets. Premier point donc, il vient après Israël et c'est l'occasion de quelques rappels. La dernière fois, nous avions vu qu'Israël avait été appelé hors d'Égypte par Dieu, délivré de l'esclavage en Égypte, et que avec cette sortie, était accompagnée de 3 choses. Ces 3 choses, nous les avons mentionnées, c'est la relation d'alliance entre Dieu et Israël, un héritage que Dieu va donner à Israël, et enfin une responsabilité confiée à Israël. Responsabilité qui était aussi la condition indispensable pour maintenir cette alliance entre Dieu et le peuple. On pourrait dire que ces 3 éléments sont un peu comme les 3 pieds d'une chaise sur laquelle devait reposer la prospérité du peuple. Ou, si vous voulez, 3 colonnes qui faisaient qu'Israël pouvait trouver la paix, pouvait appuyer sa paix sur ces 3 éléments. Une relation d'alliance, je serai leur Dieu et vous serez mon peuple. Un héritage, la terre d'Israël, la terre de Canaan, avec des promesses de bénédiction. Et une responsabilité, celle de représenter Dieu, d'être auprès des autres nations comme la nation ambassadrice du royaume de Dieu. Nous avons vu aussi que le peuple d'Israël avait été traité, et ça c'est le 2e rappel, comme le fils de Dieu, en tant que nation. Souvenez-vous, Exode chapitre 4, où Dieu donne la mission à Moïse et lui dit « Va dire au Pharaon, laisse aller mon fils. » Et en parlant de mon fils, Dieu s'adresse ici, ou il parle en tout cas de la nation en tant que peuple. Non pas des individus, mais de la nation en tant que groupe. Et nous avons vu à cette occasion que Israël a manqué dans tous les domaines, a échoué sur tous les plans. Chaque pied de la chaise, pour reprendre cette image, l'un après l'autre a cédé. Chaque pied a été comme gangréné par la corruption morale et le péché omniprésent en Israël. Les 3 colonnes dont l'alliance dépendait étaient pleines d'argile, car le peuple était rempli de désobéissance envers Dieu. C'est au point même que l'infidélité spirituelle d'Israël va être le thème de la quasi-totalité de la prédication du prophète Osée. Dans son livre, c'est sous cet angle que Dieu va l'envoyer parler à Israël, sous l'angle du reproche de l'infidélité spirituelle. Et de toute cette décadence, on en voit l'apogée ou la preuve à l'époque où le Seigneur Jésus est né. Reprenons ces 3 catégories. D'abord, nous voyons qu'il y a un roi païen à la tête du peuple. Un roi donc qui va contribuer d'autant plus à ce que le peuple s'éloigne de ses responsabilités devant Dieu. D'autre part, l'Empire romain est au contrôle de l'héritage. C'est l'Empire romain qui domine sur le territoire d'Israël et au-delà. Et enfin, Dieu n'a plus envoyé de prophète depuis près de 4 siècles quand le Seigneur Jésus entre et marche sur cette terre. La communication est donc comme rompue. La relation d'alliance est au point mort. Dernier appel, nous avions aussi vu que cet échec, et nous l'avions précisé, une précision importante, ce n'est pas l'échec de Dieu, mais l'échec des hommes. Dieu avait, par son prophète Moïse, déjà prévenu et averti Israël qu'il ne pourrait pas, en tant que peuple, rester fidèle aux exigences divines. Israël a tout de même voulu contracter cette alliance. Et si Dieu a accepté, c'est parce que dans sa grande sagesse, il savait que cela servirait de pédagogie pour l'entièreté de l'humanité. Qu'est-ce que nous pourrions voir, du coup, avec cet échec? Eh bien, nous pourrions voir qu'il n'existe aucune nation sur la terre, quand bien même elle aurait reçu toutes les révélations de Dieu, en mesure de répondre parfaitement aux exigences de ce Dieu saint, tant le péché a corrompu l'espèce humaine. Israël, au bout de cet échec cuisant, devait normalement avoir la preuve irréfutable, devait arriver à un point où il était convaincu de son besoin de salut, de son besoin d'être transformé, non pas extérieurement seulement, mais intérieurement. Non pas d'une circoncision de la chair, pour reprendre le langage des prophètes, mais d'une circoncision du cœur. Israël avait l'occasion, à l'époque du Seigneur Jésus, de constater la preuve de la dureté du cœur humain et du besoin donc d'un nouveau cœur, un cœur de chair. Et c'est à cette époque que notre Seigneur Jésus naît. Il est né donc quand la faute, je l'ai dit, d'Israël est à son comble, quand l'alliance est sur le point d'être définitivement passée, une fois pour toutes. Et souvenez-vous que les prophètes ont régulièrement, alors même que l'alliance était en cours, bien avant la venue du Seigneur, des siècles auparavant, annoncé déjà qu'un fils, un autre fils, devait venir. Souvenez-vous, Ésaïe, dont nous nous souvenons de sa prophétie régulièrement dans la période de Noël, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ou alors pensez à ce que Nathan le prophète avait dit à David lorsque David voulait construire une maison à l'Éternel. Il lui dit « Ce n'est pas toi qui construiras une maison à l'Éternel, mais Dieu te fera une maison, une dynastie. Et de cette dynastie sortira, nous dit Nathan, de la part de Dieu, un fils qui régnera pour toujours. » 1 Chronique, chapitre 17, verset 13, nous lisons « Moi-même, et c'est donc Dieu qui parle à David au travers de Nathan, « Moi-même, je serai pour lui un père, pour ce fils promis, et lui sera pour moi un fils. » Maintenant, donc, il devait être évident, encore une fois, il devait être évident pour le peuple que son besoin était criant. Il avait besoin d'un substitut, de quelqu'un qui puisse le représenter et même le remplacer devant Dieu pour être un médiateur. Et il est venu au parfait temps, au bon moment. Pour ceux qui étaient là depuis le début de la série sur Matthieu, vous vous souvenez peut-être de la manière dont Matthieu termine la généalogie du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il l'a fini? Chapitre 1, verset 17. Il termine en disant ceci. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Une manière de souligner que le timing est parfait. 14, un chiffre qui peut avoir une valeur symbolique, puisque 14, 2 fois 7, 7 qui est ce chiffre de ce qui est complet, de ce qui est entier. Jésus vient quand les temps sont accomplis, nous dit l'apôtre Paul, Galates 4, chapitre 4, au terme de la patience de Dieu envers Israël. Voilà donc pour le premier point, voilà vers quoi Matthieu, l'apôtre, lorsqu'il écrit son évangile, et qu'il cite cette parole d'Osée, et qu'il attribue l'accomplissement à la vie de Jésus, voilà sur quoi déjà notre attention devrait se porter. Deuxième point, qui sera plus court que le premier. Nous venons de voir que le Seigneur Jésus, le Fils, le nouveau Fils, vient après Israël. Maintenant, voyons le fait qu'il était déjà existant avant Israël. Ce point est plus court, certes, mais il n'est pas moins important. La Bible nous enseigne partout qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique. La Bible enseigne aussi clairement qu'il y en a trois qui sont ce Dieu unique. Je le redis, il y en a trois qui sont ce Dieu unique. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont distincts. Ils sont aussi unis, mais sans confusion. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Mais ensemble, ils partagent l'unique être de Dieu. Ce n'est pas le moment forcément de nous étendre en détail là-dessus, et si il y en a parmi les membres du CEP qui sont vivement encouragés à venir les jeudis, et d'autres qui sont dans les alentours, nous allons bientôt commencer la doctrine de Dieu, où nous aborderons un peu plus cette question de la Trinité. Mais le point important que je veux souligner ici, à la suite de la parole de Dieu et de l'apôtre Matthieu, c'est que la personne de Jésus existait avant Israël. Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né, ou lorsqu'il a été physiquement, dans sa nature humaine, conçu dans le sein de Marie. Jésus est l'incarnation de la parole éternelle de Dieu. Souvenez-vous ce que dit l'apôtre Jean dans son introduction. « Au commencement, la parole était, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et il ajoute « Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et plus loin, Jean nous fait savoir que cette parole éternelle qui a pris forme humaine, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui ferait que je puisse affirmer que Matthieu aussi en est convaincu? Eh bien, souvenez-vous que ce Fils qui est appelé hors d'Égypte, ce Jésus de Nazareth, Matthieu nous a dit un peu précédemment, dans le chapitre 2, que les scribes et les sacrificateurs savaient où il devait naître. Lisez avec moi les versets 4 à 6. C'est Hérode, le roi donc, qui apprend que le roi des Juifs est né, un autre roi. Et nous lisons à partir du verset 4, « Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée. » Alors, comment le savent-ils? Comment ils peuvent savoir où est né ce roi des Juifs qu'ils n'ont jamais vu? Eh bien, la suite nous le dit. « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître mon peuple. » On l'avait vu ensemble, on ne va pas s'étendre dessus, mais il cite ici le prophète Michée, qui, plusieurs siècles avant la venue du Christ, avait annoncé de la part de Dieu, « Le Sauveur du monde naîtra dans la ville de David, à Bethléem. » Alors, quel rapport avec le fait de dire que Jésus a existé avant Israël? Eh bien, si vous voulez bien tourner avec moi jusqu'à la prophétie de Michée dans l'Ancien Testament, si vous trouvez Michée, après Jonas. Michée, après les trois grands prophètes, en taille, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Après Ézéchiel, Daniel, effectivement. Et ensuite, on a la série des 12. Michée, chapitre 5. Regardez ce que Michée va dire immédiatement après cette prophétie où il annonce le lieu de la naissance du Messie. Verset 1, oui, juste le verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, hein, c'est bien ce que Matthieu a cité. « Toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, écoutez bien, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Autrement dit, ce même Messie qui doit naître à Bethléem, Michée nous dit immédiatement de la part de Dieu, oui, il va naître, mais son origine, son existence remonte à l'éternité. Qui est l'être dont l'existence remonte à l'éternité, si ce n'est Dieu? C'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul jour où la personne du Christ n'existait pas. Il existe depuis toujours, et lorsqu'il s'est incarné, c'est parce que le Père l'a envoyé afin d'accomplir la bonne volonté de Dieu envers nous, pécheurs. Le salut, la rédemption. Jésus est donc cet autre fils qui a été appelé hors d'Égypte, venu dans le monde après la naissance d'Israël, certes, mais qui existait bien avant Israël et même bien avant la fondation du monde. Il est le fils éternel de Dieu, là où le peuple d'Israël ne fut qu'un fils temporaire. Et il est venu dans ce monde afin de donner la possibilité à bien des pécheurs de devenir à leur tour enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir, la possibilité, le droit de devenir enfants de Dieu. Et nous voyons déjà là, et nous allons passer au troisième point, ça nous prépare déjà à des raisons de croire à la supériorité du Christ Jésus en tant que fils de Dieu lorsqu'on le compare à Israël qui était l'ancien fils de Dieu. Troisième point, ce nouveau fils est plus grand qu'Israël. Jésus aussi, comme Israël autrefois, a été délivré de la tyrannie d'un roi meurtrier, d'un roi oppresseur. Il a été appelé hors d'Égypte, nous l'avions vu. Et comme Israël autrefois, cette sortie d'Égypte s'est accompagnée de trois éléments dans la relation avec Dieu. Ce sont les mêmes trois éléments. Une relation d'alliance avec Dieu, un héritage et une responsabilité. Et lorsqu'on y regarde de plus près, nous pouvons clairement affirmer un contraste entre Jésus et Israël. Une supériorité sur tous les plans entre le Christ Jésus et l'ancien peuple de Dieu. Regardons ensemble chacune des catégories. D'abord, nous aurions, je pense, deux raisons de penser à la supériorité de Jésus. Mais constatons premièrement, il assume seul le rôle que devait assurer tout un peuple. Jésus-Christ assume seul et assure seul le rôle que devait jouer tout un peuple. C'est-à-dire que nous retrouvons dans la vie du Christ ce qui devait être vécu par toute une nation. Jésus, premièrement, est en relation d'alliance avec Dieu. Comme Israël autrefois, je l'ai dit, nous voyons, nous revenons à Matthieu, hein, chapitre 2, la citation « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Cette insistance sur le fait qu'il est son fils nous montre ici un lien particulier entre le Christ Jésus et Dieu. De la même manière qu'il y avait un lien établi particulier lorsque Dieu a appelé Israël « mon fils » et ça mettait Israël à part de tous les autres peuples, ici Dieu, en parlant du Christ et en l'appelant « mon fils », il le met à part de tous les autres hommes. Qu'est-ce qui faisait la particularité d'Israël dans cette relation? Israël était la seule nation à laquelle Dieu avait révélé sa parole, ses oracles, sa volonté. De la même manière, Jésus-Christ pourra dire, dans Matthieu chapitre 11 notamment, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Autrement dit, Jésus-Christ ici démontre et affirme qu'il a une exclusivité dans sa relation avec Dieu. Ensuite, qu'en est-il de l'héritage ? Eh bien, il y a un héritage qui est promis à Jésus avec diverses bénédictions, comme aussi pour Israël autrefois. « J'ai appelé mon fils, toujours ce verset, hein, hors d'Égypte. » Alors vous pourriez me dire, mais si j'insiste sur hors d'Égypte, en quoi ça montre l'idée d'un héritage ? Eh bien, c'est sous-entendu, mais vous allez voir, je pense que c'est assez clair. Dieu n'a pas appelé le peuple d'Israël hors d'Égypte pour le faire sortir en le vide. Mais il l'a fait sortir hors d'Égypte, sous-entendu, pour l'emmener dans un endroit meilleur. Et de la même manière, le Christ n'est pas appelé simplement hors d'Égypte pour le vide. Non, Jésus doit hériter de tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Matthieu chapitre 28, après sa résurrection, il dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Oui, parce que Jésus est le Fils de David, le Fils promis, il est donc celui devant qui tout genou fléchira. Il est celui à qui Dieu donne en héritage les nations du monde. On ne va pas le lire, mais vous pouvez noter, si vous prenez des notes, le psaume 2, au chapitre 2. Qu'est-ce que Dieu dit à ce Fils, à ce Messie ? « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités du monde pour possession. » Voilà pour l'héritage. Il y aurait d'autres choses à dire, évidemment, la promesse de l'Esprit et bien des choses importantes. Mais nous survolons simplement cet aspect. Qu'en est-il maintenant ? Nous avons parlé de la relation, nous avons parlé de l'héritage. Qu'est-ce qu'il reste ? Voir si vous suivez. La responsabilité. La responsabilité, ok. Qu'en est-il de la responsabilité du Christ ? Nous savons qu'Israël avait pour responsabilité d'obéir à Dieu et de représenter Dieu fidèlement auprès des autres peuples païens, qui adoraient des idoles, de fausses divinités, et dont la moralité était souvent une moralité affecte, abominable, horrible. Des sacrifices d'enfants, toutes sortes de pratiques immorales sur le plan sexuel, sur le plan même éthique au niveau de l'économie, tout un tas de corruptions qui étaient encouragées, qui étaient normalisées dans leur société. Et nous arrivons en Israël, le peuple sort d'Égypte et Dieu lui donne une loi sainte, belle, juste. Qu'en est-il du Christ ? Eh bien, je reviens à ce verset. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé. Il y a probablement plus ici que simplement l'idée qu'il fait sortir Israël, qu'il fait sortir Jésus d'Égypte. Il y a aussi l'idée d'une vocation, d'un appel, d'une mission. Et cette mission, elle est claire, c'est que Jésus devait être l'image parfaite du Dieu invisible. Jésus devait vivre et parler d'une manière que, en le voyant et en l'entendant, les gens puissent dire « J'ai vu et j'ai entendu le Fils de Dieu, tel Père, tel Fils ». En Jésus donc sont rassemblées toutes ces choses, et c'est pourquoi on peut affirmer que ce Fils est plus grand qu'Israël, l'ancien Fils. Venons à une deuxième raison de la supériorité de Jésus. La première, je rappelle, c'est le fait qu'en lui seul sont combinées toutes les responsabilités, les privilèges, les promesses, la mission d'Israël, de tout un peuple. En lui converge l'histoire d'Israël et l'histoire de la rédemption. La deuxième raison de voir la supériorité du Christ comme fils comparé à Israël, cet ancien fils, c'est qu'il possède de meilleures promesses. Ce n'est pas simplement qu'il reprend des promesses qui sont comparables à celles qu'Israël avait auparavant, mais il possède même de meilleures promesses qui qu'Israël n'en avait. L'Ancien Testament est comme une fiche de poste, on pourrait dire, comme la feuille de route du Messie. En lisant l'Ancien Testament attentivement, vous pouvez voir qu'il est rempli de descriptions plus ou moins explicites de ce que le Messie, le Christ, devait être, de ce qu'il devait faire et de ce qu'il devait enseigner. Et c'est dans ces textes que je vous propose de puiser quelques éléments ici et là. Et nous allons faire comme à chaque fois, depuis qu'on parle de cette question du Fils, hein, reprendre les trois mêmes catégories, l'héritage, la responsabilité et, aidez-moi,
l'alliance,
la relation. Ce sera quelqu'un d'autre que Rav après. Merci Rav. Comme je l'ai dit donc dans ces textes de l'Ancien Testament, nous allons voir que non seulement le Christ remplace Israël, mais plus encore, son importance surpasse de loin celle du peuple de l'Ancienne Alliance. Venons-en d'abord à sa relation avec Dieu. Nous apprenons dans l'Ancien Testament qu'elle sera sans fin. Elle sera indestructible, éternelle. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer ? Eh bien, de nouveau, cette promesse faite aux descendants de David, aux fils de David qui devaient régner. Dieu dit « J'affermirai son royaume pour toujours ». Et on pourrait multiplier les exemples qui montrent que ce fils devait avoir la vie éternelle. Et s'il est roi pour l'éternité, en Israël et sur les nations, ça veut donc dire qu'il est roi en tant que représentant de Dieu. Pourrait-on imaginer qu'il soit roi pour l'éternité sans avoir une relation aussi éternelle avec Dieu? Venons-en maintenant à la question de sa responsabilité. Qu'est-ce que nous apprend l'Ancien Testament? Eh bien, l'ange, souvenez-vous, avait parlé à Joseph concernant l'enfant qui était dans Marie. Alors, on n'est pas encore dans l'Ancien Testament, je sais, mais on va y venir. Que lui a-t-il dit au chapitre 1, verset 21? Lisons ensemble. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Car, ça nous explique pourquoi il s'appelle Jésus, « car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et la logique est simple. Peut-on imaginer un instant qu'il puisse sauver son peuple de ses péchés et que lui-même soit aux prises avec des péchés propres? Peut-on imaginer que de l'impur sorte le pur? Mais c'est bien ici une affirmation évidente de ce que Jésus-Christ serait impeccable moralement, en mesure de purifier son peuple, de sauver son peuple de leurs péchés. Il est cet homme si parfait, si pur, que alors qu'en Israël, et même dans le monde, lorsqu'il y avait ce type de lèpre, il y avait une lèpre particulièrement virulente et contagieuse, on ne touchait pas le lépreux. On le mettait même en quarantaine. Et ce n'était pas de la méchanceté, c'était le mieux à faire pour que ça ne se répande pas. Et alors que les prêtres devaient éventuellement examiner le lépreux lorsqu'il y avait des signes de rémission, mais sans le toucher et l'approcher de manière très précautionneuse avec tout un tas d'ablutions, voilà qu'un lépreux approche le Christ et lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Et il dit « Si tu le veux, je peux être pur. Si tu le veux, purifie-moi. » Et Christ dit « Et répond, je le veux, sois pur. » Et l'évangile nous précise qu'il le touche même. Et loin d'être contaminé par la lèpre, c'est Christ qui purifie le lépreux parfaitement. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés et aussi des conséquences et des effets du péché. Qu'en est-il de l'Ancien Testament? J'irai ici un peu plus vite, mais dans le psaume 45, un psaume qui est aussi cité dans le Nouveau, le psaume 45 déclare qu'il sera choisi de préférence à tous les autres hommes, parce qu'il a aimé la justice et il a haï le mal. Psaume 45 qui sera cité dans l'Épître aux Hébreux. Nous pouvons le lire. Psaume 45, versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Et c'est Dieu ici qui s'adresse au Messie et qui l'appelle Dieu. Si vous lisez le contexte, si vous lisez comment l'Épître aux Hébreux emploie ce texte, une preuve encore de la divinité du Christ, mais ce n'est pas le sujet. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Mais pourtant, les compagnons du Christ sont tous ces hommes et ces femmes pieuses et pieuses de tous les temps. Mais c'est bien ici un texte qui affirme donc qu'il y a un contraste gigantesque entre les plus pieux qui ont marché sur cette terre et Jésus-Christ lui-même. La piété, la justice, la bonté de Jésus est un soleil, et nos actes de piété à côté sont de petites lampes torches à peine. Enfin, nous arrivons à la question de son héritage. Mais peut-être avant de passer à cette question de l'héritage, je voudrais juste bien faire comprendre en quoi c'est supérieur à Israël, c'est le sujet, hein. Pourquoi ces promesses sont supérieures. Eh bien, pour la question de la relation, Israël n'avait pas une promesse d'être en relation éternelle avec Dieu, sans condition. Il fallait la condition de l'obéissance. En revanche, le Messie reçoit ses promesses d'avance qu'il sera roi pour toujours. C'est moi qui ai choisi mon Messie sur la montagne de Sion, psaume chapitre 2. Pour la question de la responsabilité, il était aussi un privilège pour le Christ d'avoir l'esprit sans mesure. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, c'est une promesse que Israël n'a pas eue en tant que peuple. C'est au point même que Moïse va dire « Ah, mais si seulement tout le monde pouvait être prophète, ça ferait une grande différence en Israël. » Mais le Christ, Ésaïe chapitre 11, reçoit cette promesse d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Esprit par lequel il vivra parfaitement dans l'obéissance à Dieu. Autrement dit donc, meilleure promesse, puisque promesse qui lui assure d'assumer et d'assurer parfaitement cette responsabilité auprès de Dieu. Enfin, quant à son héritage, en quoi est-ce qu'on voit qu'il est meilleur que l'héritage qui avait été promis à Israël ? Eh bien, il est meilleur parce que c'est un héritage qui lui est donné gratuitement et sans condition. On l'a déjà évoqué, mais on revient à ce fameux psaume 2. « Demande-le-moi, lui dit l'Éternel. » « Demande-le-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » Et la suite du texte n'est pas suivie de la moindre condition, de la moindre chose qui ferait que potentiellement cette promesse n'aurait pas lieu. Mais même s'il fallait des conditions pour le Christ, nous l'avons vu, à cause de sa perfection, il aurait parfaitement rempli les conditions, contrairement à Israël. Nous en venons à la fin et nous voulons tirer quelques conséquences, quelques leçons de tout cela. Qu'est-ce qu'on peut tirer du fait que Jésus est ce nouveau fils qui vient après Israël, après l'échec d'Israël, mais qui existait avant Israël et qui est plus grand qu'Israël, ayant en lui, en sa personne, récapitulé l'histoire d'Israël, et ayant même un destin, une responsabilité, un héritage qui dépasse, qui surpasse ce que Israël avait. Je vous propose les leçons suivantes. La première, mesurons l'immense estime du Père envers Jésus-Christ. Mesurons l'immense et l'infinie estime de Dieu envers le Christ Jésus, pour qu'il le choisisse, lui, à la place d'un peuple nombreux. Comment est-ce que Dieu compare souvent dans les Écritures le peuple d'Israël pour parler du fait qu'il est nombreux? Il le compare aux étoiles du ciel. Il est nombreux comme le sable de la mer. Eh bien, de préférence à toutes ces étoiles du ciel, Dieu a choisi le soleil d'Orient, comme Luc l'appelle, Jésus-Christ. De préférence à ces nombreux grains de sable, ces innombrables grains de sable au bord de la mer, Dieu a choisi le roc, la pierre de choix, Jésus-Christ. Mesurons donc l'immense estime de Dieu pour le Christ Jésus. Et plus que mesurons, examinons. Quelle estime de Jésus avons-nous? Avons-nous cette estime qui fait que Jésus-Christ, effectivement, est haut élevé dans notre considération et dans notre pensée? Ou est-il un personnage parmi d'autres? Même s'il était important, mais seulement un personnage important parmi d'autres personnages importants, nous serions en dessous de l'estime de Dieu envers Jésus. Il est un fils meilleur. Deuxième application, ou deuxième conséquence que nous devrions tirer de tout cela, nous devrions réaliser que Jésus-Christ est le fils des fils. Il est un fils unique parmi tous ceux qui ont une fois été appelés fils de Dieu et qui ne le sont plus aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, ou même parmi ceux qui conservent ce titre de fils de Dieu. Pour être concret, nous l'avons vu, Jésus est supérieur et plus grand qu'Israël, cet ancien fils. Mais il est aussi supérieur aux anges qui, ici et là, dans les Écritures, sont appelés fils de Dieu. Incomparablement supérieur. Hébreux chapitre 1 nous le dit, lorsqu'il introduit son fils dans le monde, Dieu dit aux gens, aux anges, prosternez-vous devant lui. Il est aussi infiniment supérieur à tous les enfants de Dieu que nous sommes ici ce matin, si nous sommes convertis. Il est supérieur donc à nos frères et sœurs et nous devrions estimer Jésus-Christ au-dessus même de tous les chrétiens. Au-dessus de tous les chrétiens, quels qu'ils soient. Que ce soit un prédicateur aimé, que ce soit un frère ou une sœur chérie dans l'Église, aucun enfant de Dieu ne peut et ne devrait rivaliser avec notre amour, notre affection, notre appréciation de Jésus-Christ, le Fils unique que Dieu nous a donné afin que nous ne périssions pas, mais que par la foi nous soyons sauvés. Et il y aura un effet positif dans le fait d'élever Christ au-dessus de tous ceux qui nous entourent. C'est que je vais aimer davantage ceux pour qui le Christ est mort, c'est-à-dire les chrétiens. Et l'inverse n'est pas vrai. C'est uniquement si je place Jésus sur le trône qui est le sien que je serai attentif à tout ce qui lui plaît. Et s'il lui a plu de donner sa vie pour les pécheurs qui m'entourent, irais-je manquer d'amour pour cela? Oh, que Jésus soit élevé dans nos cœurs, fils parmi les fils, fils au-dessus de tous les fils. Troisième leçon que nous devrions tirer et appliquer à nos vies. Nous sommes aujourd'hui bien après ces événements et nous savons que Jésus a accompli toute justice. Il a réussi là où une nation entière a échoué. Alors, autre application, ne devrions-nous pas célébrer, fêter et répandre la réputation et la connaissance de ce Jésus? Quelle force, quelle dignité, nous le verrons dans l'Évangile, quelle force de résistance à la tentation face au diable dans le désert, après 40 jours de jeûne. Il fait mieux à nouveau qu'Israël et mieux que vous et moi. Quelle grandeur que cet homme, qui n'a vécu que d'amour pour Dieu et d'amour pour son prochain et de vérité, incompris, comme on le voyait la semaine dernière avec Gilles, traité en dessous de ce qu'il aurait dû être, en dessous de sa dignité, arrivé à la croix, son cœur est tellement débordant d'amour que ça ne change pas lorsqu'il est dans la plus grande des souffrances. Il voit ceux qui l'entourent et il arrive à prier « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Chers amis, et en particulier chers amis chrétiens ce matin, est-ce que ce message est un message que vous avez réalisé être le plus grand des messages? Et si oui, parce que vous y croyez, ne devriez-vous pas considérer que c'est une urgence, une priorité absolue, de saisir toutes les occasions que Dieu met dans votre vie pour en parler à d'autres? Connaissez-vous sur la terre une nouvelle meilleure que celle que le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir et qui aurait pu nous envoyer sous la colère de Dieu, il aurait été juste, a daigné mourir pour des pécheurs afin de les sauver, a daigné patienter afin de nous faire du bien. Et il nous ressuscitera. Et il nous fera vivre éternellement, par grâce. Chers amis, repentons-nous peut-être, si c'est nécessaire, et je crois que c'est nécessaire, de notre manque de zèle quand nous regardons ceux qui nous entourent et qui se perdent sans connaître ce message. Repentons-nous d'être comme ce petit groupe qui, et quand je dis nous, c'est nous ici, mais nous chrétiens en général, ce petit groupe qui a trouvé l'antidote contre le pire des maux, qui a trouvé l'antidote et qui se réjouit légitimement, mais qui se réjouit de l'avoir et qui n'a même plus d'oreilles pour entendre les âmes qui agonisent autour. Spurgeon disait quelque chose qui paraît fort à certains, mais je suis convaincu de la vérité de cette affirmation. Même si on peut dire c'est une légère hyperbole, mais il dit un chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Il est impossible qu'il arrive une bonne nouvelle dans votre vie et que vous la gardiez pour vous. Mariage, naissance, travail. Et la bonne nouvelle des bonnes nouvelles, nous hésiterions à la faire connaître. Qu'il n'en soit pas ainsi et que Dieu nous aide. Nous avons beaucoup de travail et c'est un beau travail. Un beau travail qui n'est pas honteux. Parler de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. J'en viens à une avant-dernière application. C'est juste de la logique ici. Puisque ce n'est pas vous, puisque ce n'est pas moi, que Dieu a choisi pour être ce nouveau fils appelé hors d'Égypte, ce fils unique, eh bien, vous avez, nous avons, comme Israël, besoin d'être sauvés. Et là, j'aimerais m'adresser plus particulièrement à ceux parmi nous qui, peut-être, n'ont pas encore reçu le Christ. Bien que vous l'ayez entendu frapper à la porte de votre conscience, à la porte de votre cœur, bien que vous ayez entendu parler de ses excellences, de ses vertus, quel bien est-ce que vous vous faites à vous-même de tenir à l'extérieur de votre vie ce Christ Jésus, tel qu'il vous a été décrit. Plein de puissance, mais une puissance qu'il met au service du salut des nécessiteux spirituels que nous sommes. Quel avantage de tenir encore éloigné ce Jésus qui est le seul bon berger des âmes et de vous choisir à la place d'autres bergers qui ne sont en fait que des mercenaires. Car dans le danger, ils s'enfuiront et vous laisseront. Et ils sont même incapables de vous faire paître dans de verts pâturages, de vous conduire au salut, à la réconciliation avec Dieu, de laver votre conscience. Recevez Christ. Recevez-le. Aujourd'hui est encore le jour du salut. Aujourd'hui est encore un jour où Jésus a la même détermination et la même capacité à vous faire entrer au plus près de Dieu, malgré votre indignité, mais parce qu'il vous recouvre de sa justice. C'est le salut par grâce. Il vous donne ce dont vous avez besoin, que vous ne méritez pas, mais dont vous avez besoin. Il vous donne son statut de fils et de fille de Dieu. Recevez-le et aujourd'hui, soyez sauvés. C'est aussi simple que de dire oui. C'est aussi simple que d'ouvrir une porte et de dire « Entre ». Je finis avec cette dernière application. Vous vous souvenez, on avait parlé du fait que quand Israël était ce fils de Dieu, cette nation qui représentait Dieu, les autres hommes, les autres peuples, les autres nations, lorsqu'elles voulaient bénéficier d'un bienfait de Dieu, devaient se rendre en Israël ou au moins être en contact avec un prophète d'Israël. Pensez à Naaman. Ce chef de l'armée syrienne, un chef d'une armée païenne, d'une nation païenne, qui est lépreux. Et l'une de ses servantes se trouve être une jeune israélite. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si seulement mon maître, c'est-à-dire Naaman, si seulement mon maître voulait bien se rendre en Israël pour voir le prophète, il serait guéri certainement. » Parce qu'elle savait que le Dieu d'Abraham et de Jacob et d'Isaac est le Dieu vivant, qui n'est pas comme les idoles de ce monde, qui sont muettes et incapables de sauver. Et donc, auparavant, il fallait être en contact avec Israël. Il est clair que le seul chemin qui nous conduise à Dieu aujourd'hui, c'est Christ Jésus. Où est-ce que je veux en venir ? Chers chrétiens, ne cessez jamais, vous qui avez déjà reçu le Christ, de demeurer en lui. Car c'est auprès de Jésus que Dieu a envoyé toutes les bénédictions spirituelles pour notre pèlerinage terrestre. C'est auprès de lui que vous trouverez le renouvellement du pardon, chaque fois que vous tombez. C'est auprès de lui que vous trouverez la faveur de Dieu. C'est par le Christ que vous avez accès à ce Dieu, que vous avez l'exaucement des prières que vous faites chaque fois qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu. C'est par le Christ que la providence de Dieu est toute intéressée de vous conduire dans votre vie. C'est votre union à Jésus à nouveau qui, par le Saint-Esprit, pourra continuer de vous transformer à la ressemblance de Jésus, faire mourir en vous le péché et la corruption, et faire fleurir en vous l'image de ce Fils béni, Jésus-Christ. Saisissons-le comme il s'est saisi de nous. Que Dieu vous bénisse et je vous propose de prier.